usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie,
usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 20h. Sud
Radio. Parlons vrai.
Tout de suite, un point sur l'information.
Bonsoir à tous. Un adolescent interpellé en Haute-Savoie, ce jeune homme de 16 ans déjà suivi pour radicalisation, aurait cherché à se procurer une ceinture d'explosifs sur la messagerie Telegram. Il aurait été dénoncé et selon les informations de nos confrères d'LCI, il avait pour projet de mener une action kamikaze dans le quartier de la Défense à Paris lors des Jeux Olympiques cet été. En raison du caractère terroriste de l'enquête, son audition peut durer jusqu'à 96 heures. Le parquet général de Paris a annoncé qu'il requérait un non-lieu dans la procédure en appel dans l'affaire du scandale sanitaire du chlordécone aux Antilles. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone selon Santé publique France. Et les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. Ce n'est pas encore l'épilogue du Penelope Gate. François Fillon a été définitivement reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de l'Assemblée nationale. Mais la Cour de cassation a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Il servira notamment à fixer à nouveau la peine et les dommages et intérêts prononcés à l'encontre de l'ancien candidat à la présidentielle. Entre 1300 et 3200 postes menacés, le projet de réorganisation du groupe Casino a été dévoilé aujourd'hui. Certains supermarchés n'ont toujours pas trouvé de repreneur et s'ils ne sont pas cédés à la concurrence d'ici septembre, les salariés seront remerciés. 500 emplois sont menacés rien qu'au siège historique de Saint-Étienne. Autre entreprise dont la tourmente, la verrerie Duralex a été placée aujourd'hui en redressement judiciaire. Ce fleuron français du se retrouve en grande difficulté financière depuis la crise énergétique. 230 emplois sont menacés. Le tribunal de commerce d'Orléans vient de nommer deux mandataires judiciaires. Et puis, un mot de foot pour finir. Et du changement dans le calendrier de la Ligue 1. Les rencontres Brest, Reims et Nice-Le Havre, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, sont avancées au vendredi 10 mai. Par ailleurs, le multiplex de la 34e journée de Ligue 1, initialement prévu le samedi 18 mai à 21h, est décalé au dimanche 19 mai à 21h. Voilà pour l'actualité. Belle soirée à notre écoute.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Soyez les bienvenus à l'écoute de Sud Radio, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono, comme tous les soirs. Et ça débute tout de suite avec Benjamin Glaise, la première partie du débat, avec ses invités.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Parlons vrai avec cette question, les fiches de paix sont-elles trop compliquées? C'est en tout cas l'avis du gouvernement, il souhaite réduire le nombre de lignes sur le bulletin de salaire pour faire plus simple, 55 lignes, une quinzaine de lignes, c'est l'objectif affiché. Projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres, pour quel résultat? Est-ce une vraie simplification pour les patrons, pour les salariés? On en débat avec nos deux invités, Benoît Serre, bonjour.
Bonjour.
Vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, également présent avec nous, François Omril, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Président de la CFE-CGC, merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio avec éventuellement nos auditeurs au 0826 300 300. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, cette simplification? On va commencer par cela, Benoît Serre.
De toute façon, rendre le bulletin de paye plus complexe qu'il n'était, c'était impossible. Donc la seule voie possible, c'était la simplification. Vous l'avez rappelé, il y avait 55 lignes.
Pour les DRH aussi?
Non, savez, les DRH, ils les rédigent pas. C'est un système qui les produit. Et dans les petites entreprises, en revanche, c'est vrai que le simplifier, c'est sans doute quelque chose de positif. Mais, dans le projet de loi qui est présenté ce matin au Conseil des ministres, il est quand même prévu que l'entreprise doit conserver la capacité à montrer, entre guillemets, les 55 lignes à celui qui les demanderait. Ça signifie que, si facialement, lorsqu'on recevra demain, si ça fonctionne, le bulletin de paye, on n'aura plus que 15 ou 20 ou 25 lignes, je ne sais pas très bien. Ça dépend en fait, parce que dire 15 lignes, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, parce que ça dépend de votre statut, ça dépend si vous avez des aides, pas des aides, congé, pas congé, enfin il y a tout un tas de trucs. Non, disons qu'on va arriver à 20, donc ça c'est plutôt pas mal en lecture directe.
Pour le salarié.
Mais pour le salarié, donc ça c'est plutôt un point positif. Le sujet c'est que l'entreprise, il faudra sans doute regarder ça, notamment la TPE, devra maintenir un système qui lui permet de produire l'intégralité des lignes qui sont aujourd'hui sur le bulletin de paye si le salarié le demande. Alors il y a de fortes chances que le salarié ne le demande jamais, on est d'accord. Peut-être que cette réforme, elle a un intérêt, non pas de simplification, mais de clarification. Parce que c'est vrai que quand vous regardez aujourd'hui votre bulletin de paye, comprendre qui paye quoi, comment, sur quoi, avec les taux, c'était extrêmement compliqué. Donc, mais il ne faut pas perdre de vue que la complexification du bulletin de paye, il ne vient pas du bulletin de paye lui-même. Il vient de la complexité absolument incroyable du modèle de financement de notre modèle social, en fonction des statuts, si vous êtes cadre, pas cadre, tranche machin, tranche ceci, tranche cela. Voilà, c'est un peu ça, quoi.
François Omeril, indispensable ou pas cette simplification du bulletin de salaire ?
Alors moi, c'est pas du tout mon avis, hein. Et pour tout vous dire, moi, je juge de la nécessité ou pas et de l'intention du gouvernement. Je vais peut-être revenir sur l'intention. Son intention, forcément, elle est mauvaise. Alors vous allez me dire, mais vous faites un procès d'intention. La réponse est oui, je fais un procès d'intention.
Alors, bah vous assumez, pourquoi ?
Nous, on est nourris par l'expérience. Et à chaque fois que un gouvernement, depuis une quinzaine d'années, est venu vers nous en disant « nous allons simplifier les choses », à chaque fois, il les a rendues plus complexes pour les individus.
Alors, sur les fiches de paye, ça a déjà été le cas, 2023,
tout à fait,
avec une application 1er janvier 2024, et puis 2018, je crois, auparavant.
En 2018. Hein. Alors, maintenant, sur... sur le cas concret, on va dire, de la fiche de paye.
Alors déjà sur les réformes précédentes, les simplifications précédentes, vous avez l'impression que le salarié s'est fait avoir?
À chaque fois qu'on a fait une soi-disant simplification, en fait, on a rendu l'accès à la compréhension de la fiche de paye plus complexe finalement. Et vous venez de le dire, il faudra en faire la demande individuelle. J'imagine qu'il faudra faire la demande par informatique. On attendra la réponse. Ça va devenir une usine à gaz en fait d'accéder à sa fiche de paye. Et moi, je crois que c'est l'intention. Je crois que c'est l'intention, finalement, de rendre toujours plus difficile la vie des gens à travers ces opérations de simplification factice. Maintenant, je reviens à la fiche de paye. En fait, c'est pas vrai. La fiche de paye, elle est très simple. Il y a 55 lignes. Alors ça, c'est toujours la même histoire. 55, c'est trop. Ce serait mieux d'en avoir 25, etc. Mais vous savez, je vais vous dire, il y a plus de 600 muscles dans le corps. Et en fait, on est gouverné par des gens qui pensent que 600 muscles, c'est trop, qu'il faut en enlever 100, que ce sera plus simple s'il y en a un contron 500. Ça n'a pas de sens, ce que je viens de vous dire. Eh bien, en fait, les intentions du gouvernement n'ont aucun sens. Parce que les gens sont intelligents. Quand on conduit un camion, quand on construit des hélicoptères ou des sous-marins, quand on est directeur d'agence dans une banque ou au guichet, on est capable de lire sa fiche de paye et de prendre l'habitude de voir quels sont les pourcentages et où vont les cotisations et à quoi ça sert. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, c'est linéaire pour le coup. Et pour finir, ce sont des droits. Il est très important que les droits qu'il y a derrière les cotisations qu'on paye sur nos salaires, eh bien que ces droits soient accessibles, soient lisibles. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et l'intention du gouvernement est de rendre illisible l'accès aux droits.
Elle cache quoi cette opacité ? Allons au bout des choses, selon vous ?
On commence par enlever la ligne et puis après, au final, on dit petit à petit, on attaque les droits. Moi, c'est très exactement ce que je pense. Je vais prendre un exemple. Quand Emmanuel Macron a supprimé la cotisation salariée à l'assurance chômage, derrière, il y avait un projet politique. Qu'est-ce qu'il a fait ? On avait 2,4% de cotisation salariée à l'assurance chômage. Il l'a remplacé par une augmentation de la CSG de 1,85%. Et il a dit aux gens, je vous fais gagner du pouvoir d'achat parce que vous aviez 2,4, on passe à 1,85. Vous voyez, c'est simple. Mais derrière l'intention politique, c'est quoi ? Eh bien, on est en train de le vivre actuellement. C'est que l'État met la main sur l'assurance chômage en disant, finalement, maintenant, c'est nous qui payons, puisque la CSG, c'est nous, l'État. Avant, c'était vous qui payiez, c'était un peu plus compliqué pour nous. Maintenant qu'on a transféré la cotisation sur la CSG, c'est nous les patrons, et on va reprendre l'assurance chômage, on va durcir les conditions d'indemnisation, etc. Derrière toute opération de simplification, il y a un projet politique.
Benoît Serre, projet politique, est-ce que vous faites aussi ce procès d'intention au gouvernement ou pas ?
Non, je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement. Moi, je regarde quel impact ça a dans... Parce que j'ai pas dans la position de l'Association nationale des DRH, elle a pas de position politique. Moi, je défends un métier, donc c'est un peu différent. Nos statuts sont différents avec François Omeril, même si on se rencontre beaucoup avec les partenaires sociaux.
C'est intéressant justement de vous entendre tous les deux.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye de voir quel impact ça a sur les salariés, sur un élément que je sais que vous partagez, qui est le sentiment de confiance. Parce que lorsque les gens ne comprennent pas leur bulletin de paie, ils se demandent ce qu'il y a dedans. Et vous savez,
ils
ça a été un
si
sujet.
Oui, ils se font avoir ou pas.
Oui, ouais, ou alors ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter des taux sans qu'ils le voient, des choses comme ça. Il y a un peu cette ambiance-là. Moi, je me souviens, j'étais déjà DRH, je suis très âgé, donc j'étais déjà DRH quand il y a eu la fameuse retenue à la source. Et je me souviens que les gens étaient très très inquiets en fait. Ils avaient peur que l'entreprise puisse connaître leur patrimoine. C'est pas du tout le cas, hein, parce qu'en fait on nous transmet un taux, on applique un taux. Mais c'est vrai qu'il y avait cette forme d'inquiétude. Et donc c'est pour ça que si simplification il y a, alors il faut vraiment être très pédagogique pour expliquer que c'est pas pour cacher des choses. Ça c'est un premier point. Le second point. C'est que il faut s'assurer que cette simplification soit réelle. Comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est certainement réelle en lecture directe, même si je partage le point de François Omril, si on prend un peu de temps, on peut expliquer aux gens comment ça se construit. Il faudrait pas qu'elle se soit une fausse simplification faciale, comme je l'évoquais tout à l'heure, et que finalement, pour les entreprises, notamment les petites, ça reste une complexité folle. Parce que j'ai compris que ce projet sur le bulletin de paie, il s'inscrit dans un mouvement général de simplification.
Notamment pour les PME et, voilà. Et TPE.
Et ça, c'est le d'artisans plus important. Aussi. Parce que je peux vous assurer, parce que vous savez que la NRH, c'est 6500 DRH adhérents. Donc on a de toutes les tailles. On a des petits, des grands, des moyens. Oui. Les petits, des petites entreprises, c'est épouvantable. La gestion administrative auxquelles ils sont soumises est vraiment très complexe. Donc je pense que ça a plus d'urgence, entre guillemets. D'autant plus, comme j'évoquais tout à l'heure, comme on doit toujours produire les éléments, ça veut dire qu'on doit maintenir les systèmes.
Ça sera toujours aussi complexe
Complexe, même si facialement ou de manière en lecture directe, ça ne l'est plus. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets de simplification à aborder, de manière à laisser notamment les PME-TPE ne pas être envahis, mais je pense aussi aux professions libérales. Hein. Je dirais, un médecin, on estime que c'est 7 heures de documents administratifs par semaine. C'est considérable. C'est-à-dire que c'est autant d'heures qui sont pas... Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de complexité de la relation à l'administration. Alors j'ai vu que le Premier ministre avait annoncé que via l'IA ou via tout un tas de sujets, on va pouvoir simplifier, on va faire le fameux test le test PME, c'est-à-dire que quand on prendra un texte de loi, quel qu'il soit, ou un règlement, on s'assurera de voir comment ça marche, des tests de grandeur nature. Mais tout ça, honnêtement, on l'a déjà entendu. Donc moi, je ne fais pas de procès d'intention, j'attends l'action.
Oui, on verra cela. On reparlera aussi dans un instant des autres points de simplification à évoquer. Juste avant, un petit mot avec François Omril sur cette nécessité aussi d'établir un rapport de confiance. Est-ce que ça va peut-être renforcer cette confiance, cet échange qu'on peut avoir entre l'employeur et puis le salarié?
Non, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Il y a un problème de confiance aujourd'hui dans notre pays. Hein, on ne fait pas suffisamment confiance aux gens et on ne fait pas suffisamment confiance à leur intelligence pour comprendre les situations. Donc là, on a l'exemple typique. On dit aux gens, la fiche de paye, c'est compliqué, on va vous la simplifier. Non, c'est pas vrai. Vous regardez une revue technique auto de garagiste, où ça vous paraît hyper complexe. Hein, et pourtant, pour le garagiste qui va réparer votre moteur, bah en fait, c'est simple parce que c'est son métier. Donc en fait, c'est pas vrai. La fiche de paye, c'est pas compliqué dans le privé. Par contre, je vous accorde que dans le public, pour le coup, une fiche de paye qui est très simple, il y a très peu de lignes dans une fiche de paye du public, c'est totalement incompréhensible. Donc j'attire l'attention de tout le monde sur ce sujet-là et j'invite tout le monde à comparer la fiche de paye dans le public et la fiche de paye dans le privé. Et là, vous allez voir, c'est édifiant. Donc si l'objectif de Bruno Le Maire, c'est de rendre la fiche de paye du privé aussi illisible et incompréhensible que celle du public, alors là, effectivement, chapeau l'artiste. Il va atteindre son objectif. Une autre chose qu'il faut savoir, parce que je suis assez d'accord sur le fait que, s'agissant des petites entreprises, il y a une forme d'injustice qui est liée au fait que les petites entreprises sont confrontées à des formalités administratives qui sont quasiment du même nombre que les très grandes. Et moi, je pense, effectivement, comme vous, probablement, que dans les petites boîtes, il vaut mieux que le patron, il se consacre à développer ses produits sur les marchés, à chercher des clients, plutôt que de s'occuper de remplir les papiers. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'établissement de la fiche de paye, partout, elle est sous-traitée. Il y a des boîtes, aujourd'hui, dont c'est la spécialité de faire la fiche de paye. Et de toute façon, toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, c'est pas le comptable qui fait la fiche de paye avec sa plume. Non, c'est pas vrai. C'est une prestation qui est vendue.
Donc,
c'est
externalisé.
Il y a des gens dont c'est le métier. Ce qui prend du temps, en fait, c'est le déclaratif. C'est par exemple les primes, les heures supplémentaires, etc. Or ça, la simplification de l'écriture de la fiche de paye, ça ne va pas l'enlever. Quand quelqu'un
pas.
Il a
ouais.
fait il a fait le poste de nuit, faudra quand même bien le signifier. Et c'est ça qui prend du temps. Donc là encore, on nous dupe.
Et oui, Benoît Serre partage votre avis sur ce sujet-là. Vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, et puis François Omril, je le rappelle, président de la CFE-CGC. Quel autre type de simplification? À quoi doit-on s'attendre? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Mano Mano.
C'est le retour des Mano Mano Days. Des maxi promos pour vous équiper, comme sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 à 199 euros.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano.
C'est aussi des Pro Days sur le site et l'appli Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Offre valable du 16 au 29 avril, voire conditions sur manomano.fr.
Sud Radio 7.
104.9.
Sud Radio.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Sud Radio.
On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai. Que moi, la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages.
We are from the north. We came from the south. We are. Yes, we are. Je, tu, elle, il. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs. Nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse. La nation guérit.
We are from the north. Yes, we are.
Est-ce que tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon? Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Embrasser le monde entier.
We are from the north. We came from the south. We are the nation. We are from the north. We came from the south. We are the nation.
Yes, we are. Yes, we are.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono que vous retrouvez également sur sudradio.fr et l'application Sud Radio. Tout de suite, la suite des débats avec Benjamin Glaise.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Le choc de simplification promis par Bruno Le Maire, qui parle de révolution. On en parle avec nos deux invités, Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, et puis François Omril, qui est président de la CFE-CGC. Avant cela, on a un auditeur au standard au 0826-300-300 qui souhaite réagir. C'est Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez réagir à cette simplification promise par Bruno Le Maire, notamment sur les bulletins de salaire.
Bah pour moi, c'est simple, c'est un effet d'annonce. Quoi. Je ne vois pas la simplification qu'il va apporter aux chefs d'entreprise, sachant que nous, entreprise et patrons, on passe la majorité par des cabinets externes pour effectuer nos payes ou des prestataires sur les petites structures. Parce que malheureusement, on n'a pas le choix. Sinon, on a des redressements, on a des contrôles. Mmh. Et on voit qu'on n'a pas la qualification pour exercer au niveau des payes. Donc, on passe tous par des prestataires externes. Et là, il nous simplifie que dalle, en fait. Sincèrement, c'est un effet d'annonce. C'est dire, ça ne nous facilite pas, nous, patrons, la vie. Pas du tout.
Vous partagez ce que disait juste avant la pub François Omril. Merci Sylvain, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bonne journée à vous, Benoît Serre. Réaction par rapport
à
ce que disait vous comprenez ce que disait Sylvain
que François Omril, c'est que c'est un projet de simplification qui touche le salarié. Pourquoi pas? Mais je comprends très bien la réaction de Sylvain, hein, c'est ça, chef d'entreprise.
Oui, tout à fait.
Parce que lui, comme chef d'entreprise, ça va pas changer sa vie. La petite chose, c'est comme effectivement beaucoup sous-traitent le sujet, il va falloir adapter un certain nombre de logiciels et que ça, c'est pas gratuit. Donc, c'est ce qu'a d'ailleurs dit, je crois, le président de la CPME récemment. Mmh. Il y a quand même un coût pour les TPE-PME parce qu'il va falloir modifier. Donc, cette simplification commence par un coût. Mais elle a un intérêt pour le salarié. On n'est pas complètement d'accord avec François Omril là-dessus, mais elle a un intérêt pour le salarié. Mais effectivement, pour l'entreprise, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, hein, puisqu'elle doit continuer à maintenir les mêmes informations. Donc, je ne pense pas que ce soit une simplification administratif pour l'entreprise.
J'aimerais vous faire réagir à une autre simplification promise par Bruno Le Maire sur la question de l'envoi à la Sécu des arrêts de travail. Ce sera plus le cas forcément, ce sera plus demandé à l'employeur puisque le salarié le fait déjà. Et puis de l'autre côté, concernant les 26 millions d'attestations chômage envoyées chaque année à France Travail, là aussi, plus besoin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la fin d'une absurdité? François Omril, vous en pensez quoi?
Bah, pour tout vous dire, pas grand-chose. S'agissant des opérations de simplification de Bruno Le Maire, je vais y revenir. Il nous a annoncé il y a quelques semaines la suppression de l'obligation d'afficher le certificat d'assurance sur le pare-brise. Mmh. Il a dit finalement c'était absurde, etc. Ça servait à rien. Enfin bref, des arguments très contestables et très contestés. Et puis il a fini par cet argument massue qui a fait rire tout le monde, disant ça va économiser 1 million de tonnes de CO2, ça produira moins de papier.
La paperasse, ouais.
Donc ça, c'était vraiment l'argument de trop, quoi. Et c'est là que je pense qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire que finalement, Bruno Le Maire, avec son cabinet, ses services à Bercy, il décide de tout. Ils décident de tout. Bientôt, ils décideront que les chaussures à lacets, c'est trop compliqué, qu'il faut que tout le monde ait des mocassins, et donc on va mettre une taxe sur les chaussures à lacets. Et on en est là aujourd'hui. Et moi, j'aime pas ces gens qui veulent me simplifier la vie, alors que je n'ai rien exprimé de particulier sur ces sujets-là.
On nous prend pour des enfants, quoi, là-dessus.
Bah exactement, ouais. On nous prend pour des enfants. Donc s'il y a un problème sur les arrêts de travail, on en discute, je crois qu'on est là pour ça, sur la transmission, pardon, des arrêts de travail, eh ben, on consulte les partenaires sociaux, on leur dit, est-ce que c'est un sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? On vous propose ça, est-ce que c'est une bonne idée? En amont, on travaille, on expertise les questions, et au final, on donne un avis. Et après, on décide. C'est pareil. Non, mais là, il y a quelqu'un, il y a un crâne d'œuf dans un bureau, le bureau 622 du troisième étage de la grande barre de Bercy, qui dit, j'ai une idée de génie. Ouais. Voilà, il a mangé 2 pizzas, il a bu 3 bières. Il dit, j'ai une idée de génie, on va supprimer ça, ça va simplifier. Et grâce à ça, Bruno Le Maire, il va pouvoir faire le beau dans une conférence de presse. Nous, on en a marre de ça, en fait. Voilà, je vous le dis très sincèrement, on en a ras-le-bol qu'on nous prenne pour des enfants et que des gens définitivement éloignés de nos situations de travail, ils décident de nous simplifier la vie et en vérité, ils ne font que nous la complexifier.
Benoît Serre, pour revenir à cette question des arrêts de travail, oui. Plus besoin pour les employeurs de les envoyer à la Sécu sur la fin des attestations chômage envoyées à France Travail. c'est quand même un gain de temps, une économie pour l'employeur, non ?
C'est un gain d'économie, je ne suis pas sûr. C'est un gain de paperasserie et de temps, effectivement. Mais je pense que d'abord, il y a déjà des choses qui sont assez bien organisées. Ensuite, moi j'attends avec intérêt, et je sais que c'est compliqué, hein, l'amélioration des services à distance, des services de l'État, parce que c'est une manière d'avoir des éléments de... Vous savez, on collabore déjà beaucoup à distance en fait, avec l'État, hein, depuis la fameuse DSN, la fameuse déclaration sociale nominative, etc. On a pas mal d'éléments, ce qui d'ailleurs aujourd'hui, dans le temps, a posé des difficultés parce qu'il fallait que les petites entreprises s'adaptent sur un plan technologique. Maintenant, bon, elles le sont plutôt adaptées. Donc ça, c'est un mouvement. Alors, l'économie de CO2, pour faire sourire François Aubry, qui paraît de mauvaise humeur, ça marche aussi pour bulletin de paie, parce que de 55 à 20 lignes, on n'aura plus qu'une page dans le bulletin de paie, donc on économisera une page pour les millions de salariés français. Mais je pense que ça, c'est des systèmes où on rend un peu plus fluide la contrainte administrative. Mais c'est pas là la complexité, en fait. Si vous interrogez des chefs d'entreprise ou des DRH de petites boîtes, ils vous diront c'est pas là. C'est dans les dizaines de déclarations qui doivent être faites. C'est dans les systèmes de contrôle qui tombent tous les quatre matins. C'est dans les systèmes de reporting. C'est ça le sujet. C'est pour remplir la fameuse,
alors c'est un peu technique, temps,
la fameuse BDES, la base de données économiques et sociales. Ça, c'est d'une c'est ça, ces sujets-là. Et je trouve, d'ailleurs, là où je rejoins François Omril, c'est que ce sont des vrais sujets de dialogue social. Et je pense que le dialogue social, il doit se situer à deux niveaux. Un, sur ce type de choses, avec un dialogue social, on va dire, national, avec les autorités, entre les confédérations, pour essayer de voir. Et après, si je pouvais émettre un vœu, c'est, je reprends le terrain de la confiance, faire confiance aux entreprises, avec leurs représentants, sur le terrain, pour voir, et dire, écoutez, dans notre activité, voilà, qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut... C'est ça un petit peu le sujet, c'est que c'est souvent un peu normé par le haut, quelle que soit l'origine de la norme, on va dire, que ce soit la norme de l'État, que ce soit la norme d'un accord national interprofessionnel, quand il est signé, parce que récemment on en a raté un. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt ça les vraies mesures de simplification qui sont attendues, que plutôt de savoir si on transmet ceci, cela. C'est tous les systèmes de contrôle qui vous tombent dessus tous les matins, le fait de devoir maintenir des informations dont tout le monde se fiche éperdument d'ailleurs. Parce que ça, c'est un problème. C'est qu'on remplit des tas de papiers, on envoie des tas d'informations, personne ne sait à quoi elles servent, en fait.
François,
et c'est ça le problème.
François Aumry, vous voulez réagir à ce sujet ?
Oui, moi, je suis assez en accord avec ce que dit M. Serre. On a une problématique, effectivement, d'une administration qui consomme de la donnée, et on a un peu, parfois, l'impression que cette boulimie ne débouche pas sur une certaine forme de fluidification des rapports, etc. Donc, pour le coup, là, je suis assez d'accord. Et par ailleurs, moi, je suis pas favorable à ce qu'on atténue ou à ce qu'on supprime les normes a priori, comme si c'était la norme qui pesait comme une contrainte sur les entreprises. Moi, ce que je crois, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ne sont pas à égalité devant ces contraintes normatives et qu'il faut... S'agissant des petites entreprises, il faut avoir une aide personnalisée. En fait, c'est ça le problème. Il faut que l'administration, le service public, finalement, se dote de cette mission d'aider les petites entreprises et les chefs d'entreprise à affronter ces normes administratives-là, au moins dans un premier temps. S'il est établi que la norme est contre-productive, à ce moment-là, on en discute, là encore, on en discute socialement, on y travaille, et si vous la supprimez, on la supprime. Mais en amont, ce qui est important, je le crois, c'est aider les entreprises qui n'ont pas les moyens de l'affronter en interne à affronter la norme. Et c'est, je crois, une mission plutôt honorable pour les services publics.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono. Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Quand un gamin casse une voiture et que, une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire, et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins, et le surlendemain, à leur mettre une baffe, et le sur-surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure.
Sud Radio, parlons vrai.
Mmh.
tout c'est si bon.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui, oui.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, parlons vrai comme chaque soir, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono pour ne rien rater. Tout de suite, nous retrouvons André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Aujourd'hui, André Bercoff, pour ce face-à-face, vous recevez Pierre de Gaulle, le président de la Fondation Pierre de Gaulle pour la paix, la concorde et l'amitié entre les peuples. Bonjour Pierre de Gaulle.
Bonjour, merci de votre accueil.
Économiste, financier, nous avons reçu avec plaisir Pierre de Gaulle en janvier 2023 sur cette antenne et dans cette émission. Et on peut dire que, on en parlait un peu, les choses se sont accélérées dans tous les domaines. Peut-être pas les meilleurs et pas, peut-être pas dans la bonne direction. En tout cas, on sent quelque chose qui est en train vraiment de, aller quelquefois, quelque part de se décomposer, quelque part de changer, parce que le bouleversement du monde, on le connaît aussi. Alors, je voudrais quand même, Pierre de Gaulle, qu'on parle un peu de la France, enfin, et vous en avez souvent parlé, et de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Comment vous le ressentez, ce qui est la situation?
Alors, ce qui me frappe et ce qui me désole, c'est le vide politique, le vide de programme, le vide en termes de conception d'un gouvernement et d'un président qui est habitué à mentir aux Français, est habitué à faire croire en de belles histoires, en des mythes, plutôt que de s'attaquer véritablement aux réalités. Un président qui n'aime pas la France, visiblement, qui n'aime pas les Français. Il l'a dit, j'ai appris à aimer les Français. Et surtout, une absence totale de vision stratégique, de programme. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que le gouvernement passe l'essentiel de son temps à communiquer, à courir après les sondages, après les élections, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, de réfléchir, d'avoir une réflexion véritablement profonde sur comment on gère notre pays, comment on le redresse, comment on fait face à une situation économique, politique et diplomatique catastrophique, et comment on s'attaque aux vrais problèmes. C'est-à-dire, je souhaiterais que ce gouvernement puisse établir, région par région, département par département, collectivité locale par collectivité locale, des discussions avec les entrepreneurs, des discussions avec les artisans, pour lancer des programmes locaux, des programmes nationaux, des grands projets, et établir qu'est-ce qu'on fait, et demander des résultats, concrètement, sur le terrain, aux politiques, pour que les choses avancent, pour que le pouvoir d'achat des Français soit défendu, pour que leur sécurité soit véritablement garantie. Elle ne l'est pas, ni dans les rues, ni sur le plan international, ni vis-à-vis du terrorisme. Et à cet égard, je suis frappé, lorsqu'on commence à préparer l'opinion publique à d'éventuels attentats en ce qui concerne les Jeux Olympiques, où on dira « Ah, mais c'est la faute des Russes ». C'est la faute d'un gouvernement et d'un président qui ne sait pas tenir son pays, qui a fait des erreurs diplomatiques considérables, notamment vis-à-vis du conflit Israël-Palestine, et qui nécessairement devra faire face à un terrorisme. Alors forcément, c'est la faute des autres. Il y a cet esprit d'abandon et cette trahison qui vise à faire croire aux Français que on peut confier les intérêts de la France, qu'on peut confier leurs intérêts à des étrangers, à des intermédiaires, à une commission européenne. Tout ça parce qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas régler ses propres problèmes. Ça me scandalise et je pense qu'il faut complètement revoir la façon de gouverner et la façon d'établir un rapport avec les Français pour les protéger et les défendre.
Alors Pierre de Gaulle, juste pour l'histoire, la question européenne, vous dites justement, on délègue à des étrangers, mais que répondez-vous à ceux qui vous disent, mais attendez, la France est très très bien, mais la France est trop petite aujourd'hui dans le concert mondial pour ne pas être absolument en concert avec l'Europe, avec l'Union européenne, pour avoir la puissance, c'est l'Europe, c'est ce qu'on nous répète, en tout cas un certain nombre, à longueur de médias et à longueur de journée. La France seule, comment voulez-vous qu'elle se débrouille ?
Mais c'est la France qui fait l'Europe, et non pas l'inverse. Ce n'est pas en confiant à une technocratie européenne nos intérêts qu'on va défendre notre propre position. La France est un grand pays, la France est une grande puissance économique, est une grande puissance en termes d'innovation, en termes de savoir-faire, en termes de capital culturel, en termes de capital scientifique. Nous avons les meilleures écoles du monde. Nous avons un savoir-faire, une technologie considérable. Nous bénéficions toujours d'une étendue en termes d'influence, d'une action internationale. Nous sommes le deuxième territoire maritime mondial.
Je
pense que c'est une grave erreur, et c'est d'ailleurs le vœu des Américains, de vouloir réduire la France à un rôle continental, et de meilleurs élèves des Américains, et de nous, circonscrire au glacis européen, au glacis continental.
Et alors, justement, ceci m'amène, on va parler évidemment de tout cela, on va parler de ce qui se passe à l'étranger, de la politique étrangère de la France, la politique intérieure. Mais la question que je vais vous poser tout de suite, je viens de vous entendre et on vous entend et on vous avait entendu il y a un an et demi. Pourquoi n'entrez-vous pas en politique ? Pourquoi justement ? Et je ne parle même pas de votre nom, je ne parle pas de ce qui vous engage ou vous oblige. Mais pourquoi vous ne dites pas bon, mais écoutez, moi, avec mes moyens, je vais essayer de participer à cette volonté, cette lucidité, ce réveil.
Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour défendre la France et les Français, parler de la France et faire en sorte que son prestige, son rang, soit restauré sur la scène internationale, qu'elle devienne une grande nation, redevienne une grande nation, entendue, et qu'elle se soit un pays prospère, sécurisé, que les Français soient épanouis, que les Français croient de nouveau en leur avenir. Et je voudrais porter un message d'espoir, c'est pour ça que j'ai créé cette fondation. Mais je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne suis pas attaché à des échéances électorales. Ce qui m'intéresse, c'est la France et les Français.
Alors justement, à votre avis, parlons de ça, on va parler évidemment de la Fondation. Comment, je veux dire, même si vous ne faites pas de politique, on est chacun d'entre nous, on est concerné par cela, la politique s'occupe de vous. À votre avis, ce n'est pas un combat perdu. Vous avez dit les avantages, effectivement, que la France était encore, et heureusement, un grand pays. Mais vous avez vu la désindustrialisation, vous avez vu la vente des bijoux de famille, vous avez vu la délocalisation un peu partout, vous avez vu, effectivement, que l'on confie d'un côté à des conseillers américains la communication, mais beaucoup plus grave, tout le problème, je veux dire, qu'on est en train d'acheter du gaz de schiste aux États-Unis, du pétrole indien qui est du pétrole russe raffiné, etc., etc. On pourrait passer 2 heures en parler. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a délocalisé beaucoup de choses, pas tout heureusement, mais beaucoup de choses, et on a l'impression que, il dit, bon, mais écoutez, c'est pas pour nous, l'agriculture, vous savez dans quel état c'est, l'industrie, on a vu la désindustrialisation, le tertiaire, nous ne sommes le tertiaire, sauf que, est-ce que la France est un pays uniquement de services et de tourisme?
Je pense que notre pays est en grand danger, justement, de se transformer en industrie de services et en secteur tertiaire. On a vu les dégâts de cette désindustrialisation, notamment en Grande-Bretagne, poussée par Margaret Thatcher à l'époque, qui disait « la société, ça n'existe pas ». Le fait de désindustrialiser un pays, de retirer ses forces productives, ses capacités industrielles, je parle aussi bien de l'industrie lourde que la sidérurgie, que de l'innovation, que nos technologies agricoles, l'agriculture même, nos métiers, nos artisans, tout ce qui fait la richesse et la diversité des Français. C'est ça qui fait la stabilité et la continuité d'un pays, à la fois d'un point de vue économique, mais en même temps en termes de structure de société. Le fait d'avoir désindustrialisé un pays rend vulnérable notre société parce que ça crée une fracture. Et surtout, une société de service est bien plus indépendante, et d'ailleurs c'est le concept économique, elle est dépendante d'une industrie de demande. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la demande et donc on s'adapte également aux spéculations et aux marchés financiers. Plutôt que d'avoir une économie basée sur l'offre, alors c'est vrai que l'inspiration gaulliste derrière tout ça est colbertiste, c'est-à-dire que l'État intervient là où il n'y a pas d'autres initiatives, mais elle s'appuie sur des compétences industrielles, techniques, solides et profondes. C'est d'ailleurs ce que font certains pays comme la Chine, comme aussi la Russie. Mais dans ces pays-là, les gouverneurs de région doivent rendre des comptes au gouvernement en ce qui concerne les résultats, en ce qui concerne le développement de leur politique, en ce qui concerne les créations d'emplois, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, en ce qui concerne les grands programmes, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne la recherche scientifique. Et c'est ça complètement, à mon avis, qu'il faut remettre en place. Notre société est déstructurée, est une société beaucoup trop dépendante, je vous l'ai dit, de la demande et des marchés. Oui. Comme la France est dépendante d'ailleurs, en se désindustrialisant, mais aussi en s'endettant considérablement. Vous avez rappelé effectivement l'état de notre pays qui s'est aggravé depuis de nombreuses années et depuis notre dernier entretien. L'endettement de la France dépasse 3000 milliards. L'endettement hors bilan, c'est-à-dire décommissionnement des centrales nucléaires, les retraites des fonctionnaires, tous les postes qui ne sont pas directement comptabilisés, c'est 8 000 milliards de dollars. Ça rend notre pays dépendant, puisque cette dette, il faudra bien la refinancer, il faudra bien surtout la rembourser. Et à l'époque, on a créé une croissance artificielle en inondant les marchés d'argent gratuit, puisque la planche à billets pour stimuler une croissance artificielle battait son plein. Il fallait 8 mois de production française, de produits intérieurs bruts, pour rembourser uniquement les intérêts de la dette. Mmh. Avec ça des continue. Taux d'emprunt qui sont maintenant vers 1,80 ou 2% sur 10 ans, une année ne suffit même plus pour rembourser les intérêts. Alors on se lance dans des grands programmes, on se lance dans un soutien, je dirais, débridé, sur la future gestion des pandémies, sur l'aide à l'Ukraine, qui est une guerre qui ne nous concerne pas. Au détriment des Français, on va faire entrer l'Ukraine, on en parlera largement, dans l'Europe et dans l'OTAN. Ça coûtera 180 milliards de plus. Et déjà, le président Zelensky a dit, mais à ma foi, la reconstruction de mon pays, ça va coûter 700 milliards. La France participe à hauteur de 20% dans le budget européen. Je pense qu'on n'a absolument pas ni les moyens ni les capacités de continuer cette surenchère. Il est grand temps de se redresser plutôt que de communiquer, de passer d'un thème à un autre, de changer d'opinion en fonction des sondages, en fonction des élections à gagner.
On va en parler après cette toute petite pause. On va parler de l'Ukraine, de la Russie, on va parler du Proche-Orient, mais on va parler aussi de quelle volonté et quel courage il faudrait pour aller à revers, effectivement, d'une certaine communication très, très, très régnante.
Sud Radio Monaco.
97.9.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Donde voy no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has
hecho donde estoy, no vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor. No, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Les essentiels de Sud Radio à retrouver également sur sudradio.fr. On retrouve tout de suite le face-à-face, c'est avec André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Pierre de Gaulle, nous avons parlé de la situation de la France et effectivement... votre diagnostic n'est pas très encourageant. Est-ce que, au fond, on peut se dire, parce que ça fait quand même des décennies, qu'il y a une courbe qui suit son cours, mais peut-être pas en remontant. Est-ce que c'est une question d'homme, quand j'ai une question d'homme, une question de volonté, de courage, sans parler de ce qu'il faudrait faire, mais on a l'impression, si vous voulez, aujourd'hui, que les choses suivent leur cours et que personne, à part quelques-uns, heureusement, mais enfin, ne s'y oppose vraiment. Alors, il va y avoir l'échéance des européennes. Juste un mot, est-ce qu'à votre avis, ces élections européennes vont changer quoi que ce soit ou pas ?
Je pense que non. Ce qui est certain, c'est que le parti qui sera gagnant, qui sortira gagnant ces élections européennes, sera encore une fois l'abstention. C'est-à-dire le refus d'un système. Je suis attaché à dire la vérité aux Français, dénoncer l'existence d'une technocratie européenne qui fait que la nation, la France, n'existe plus. Le droit européen est supérieur au droit français. Il n'existe plus que dans la Constitution française, à travers une structure de pays européens où plus on est nombreux, mieux c'est. Ce qui fait que tout le monde se dilue dans un ensemble où les contours sont incertains, où il n'y a pas de politique véritablement précise et surtout où l'on confie à des étrangers les intérêts de la France et notamment les intérêts vitaux en termes de politique énergétique, de politique sanitaire. Vis-à-vis de la politique sanitaire, ça va d'ailleurs encore un peu plus loin, puisque on est en train de préparer un traité, je dirais, de la santé internationale, qui fait que la politique sanitaire des États sera confiée à l'OMS. Il en est ainsi de la santé, mais aussi de la défense nationale. Sans l'Europe, nous sommes perdus, mais je crois que la France a largement les capacités de se défendre, d'exister et de se développer. L'idée d'une armée européenne, pour moi, c'est une utopie. Vous ne verrez jamais ni les Suédois, ni les Allemands, ni les Italiens véritablement défendre strictement les intérêts de la France, mais évidemment les intérêts de leur propre nation. Oui. Alors, il y a beaucoup de manipulations autour de ça. Je pense que les élections européennes et la part, je dirais, belliqueuse du discours du président Macron, d'autres d'ailleurs responsables, d'autres chefs d'État européens, c'est pour masquer un vide politique, un vide social, un vide économique, un vide de programme. Donc, eh bien, on est belliqueux, on dit, pour sauver l'Europe, il faut faire la guerre, surtout la guerre vis-à-vis de la Russie. La Russie qui a dit, plusieurs fois et répété, par l'intermédiaire du président Poutine, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov, et d'autres responsables, qu'elle n'avait aucune intention d'envahir l'Europe, aucune intention de porter la guerre dans l'espace, et qu'elle se contentait, entre guillemets, de la guerre en Ukraine pour réaliser ses objectifs qui sont, je le rappelle, la protection des populations pro-russes du Donbass. Alors, il est clair qu'il y avait des opportunités de paix. Ces opportunités de paix étaient présentes dès le 25 février 2022, étaient présentes lorsque les Russes ont accepté de se retirer des environs de Kiev en échange de contreparties qui n'ont pas été respectées
puis
ni
Boris
par l'OTAN
Johnson est venu.
Ni par les Occidentaux.
Ouais.
Vous parlez effectivement de Boris Johnson. Ouais. Le plan de paix, il y avait jusqu'à 7 à 8 versions, était prêt à être signé par les Ukrainiens, prêt à être signé par les belligérants, sous l'influence d'Erdogan, Premier ministre turc, mais également de l'ancien Premier ministre israélien Bennett, et Boris Johnson est arrivé à tout casser en disant on ne veut pas faire la paix. Il est clair que l'influence américaine est extrêmement forte, ce sont eux qui font la guerre par jusqu'au dernier Ukrainien et par Ukraine interposée. C'est une guerre contre la Russie. C'est une guerre parce que les Américains ne veulent pas que l'Europe s'allie à la Russie. La Russie qui est un réservoir fantastique de matières premières, mais qui est aussi une grande puissance, qui est un pays de grands projets, notamment à travers les BRICS, qui sont une opportunité pour la France. Je souhaite personnellement, j'ai dit plusieurs fois, que la France rejoigne les BRICS, bien entendu, elle a rejoint la route de la soie. C'est une alternative extrêmement intéressante où nos industries, nos scientifiques, nos universitaires peuvent s'exprimer pour participer à ce développement. Les BRICS représentent, pour la petite histoire, 80% des routes du pétrole. C'est donc absolument stratégique et c'est encore une fois un enjeu considérable aujourd'hui.
C'est clair que c'est un des bouleversements du monde qui s'opère
exactement
sous nos yeux. Juste un mot, Pierre de Gaulle, je voudrais juste revenir à quelque chose que votre grand-père pratiquait avec assiduité, mais de façon... très forte et très démocratique, c'est le référendum. Pourquoi je vous en parle? Parce que récemment, vous savez que certains députés républicains ont proposé une proposition de référendum sur l'immigration. Et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a dit non, ça ne s'appliquait pas à l'article 11. L'article 11, il ne faut parler que si c'est économique ou social. L'immigration, ah bon, ça n'a rien d'économique ou de social. Et on a rappelé comment le général de Gaulle lui-même avait effectivement utilisé l'article 11 quand il a décidé des premiers référendums, quand il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de non-application absolue du référendum depuis une certaine année 2005 ?
Je pense qu'on se trouve face à un système qui devient de plus en plus autocratique, alors que mon grand-père avait institué dans l'esprit de la Ve République, effectivement, un pouvoir présidentiel fort, mais également des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que l'élection présidentielle était soumise à un mandat de 7 ans, celui des parlementaires 5 ans et celui des sénateurs 9 ans, renouvelable à partir tous les 3 ans.
Ça
aboutissait à un certain équilibre et on l'a vu, qui fonctionnait très bien, notamment au moment des cohabitations sous François Mitterrand. Petit à petit, par démagogie, agenda personnel, les politiques ont déjà institué les doses de proportionnel pour favoriser, je dirais, les partis les plus importants et éviter que les autres partis puissent avoir des représentations. Et ensuite, on a aligné les élections, les institutions, donc selon leur propre programme. C'est-à-dire, mandat présidentiel à 5 ans, c'est vrai que les Français se sont exprimés favorablement, élection des parlementaires à 5 ans, avec un agenda qui suit exactement celui des présidentielles, et élection sénatoriale ramenée à 6 ans. Il n'y a plus non plus de respect des élus, de la voix de la population française, puisque le président l'a montré, notamment à travers son ancien Premier ministre Elisabeth Borne. Pour éviter le débat, on fonctionne à coup de 49-3. Ce que Gabriel Attal n'a pas encore mis en place. Pour l'instant, le discours est détourné, mais je pense qu'il pourra pas faire l'économie de ce genre de mesures. Et donc, je suis pour que les Français puissent s'exprimer sur les questions fondamentales économique, de société ou en ce qui concerne les institutions ou la Constitution, comme le prévoient les articles 11 et les articles 89 de la Ve République. Je précise aussi qu'il y a un esprit de contrôle de l'expression de la liberté des Français qui va croissant. On ne parle pas suffisamment de la du Digital Service Act qui a été adopté au début janvier de cette année par la Commission européenne, qui vise à créer un ministère de la vérité, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas conforme aux valeurs européennes sera sanctionné et puni. On est en train de sortir maintenant une loi d'ingérence qui est juste. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ce sera aussi l'occasion de décrire à quel point les think tanks américains et l'influence anglo-saxonne est présente au sein de notre société, au sein de notre gouvernement. La plupart des conseillers de Macron sont des anciens McKinsey, à qui on a confié des mandats de 2 milliards d'euros pour la gestion des réseaux sociaux sur les élections présidentielles, les deux dernières élections présidentielles, mais également la gestion du Covid. McKinsey, d'ailleurs, qui n'a pas payé d'impôts pendant près de 10 ans. Nos élites politiques sont formées par le programme de Young Leaders américains. Il en est ainsi.
Les Young Global Leaders.
Gabriel Attal, notamment, en fait partie. Sarkozy, évidemment, en faisait partie. Donc tout ça fait partie s'inscrit dans un programme de contrôle, d'influence et d'ingérence. Les think tanks les plus connus sont Aspen, sont Berggruen, sont Bilderberg, et nombre de nos élites politiques sont issues et payées directement par ces centres d'influence.
Pas payé directement à l'époque, pas maintenant quand même.
Oui, enfin, je pense que celui qui était, je me souviens plus du nom de cette personne qui était à l'initiative de cette loi d'ingérence, mais il a été rémunéré par Berggruen à l'auteur de 12 000 euros par mois.
Oui,
donc où est la liberté de penser, la liberté d'agir? Où est notre souveraineté? Je pense qu'elle a disparu. Le référendum est un bon moyen de donner au peuple la possibilité de s'exprimer sur les questions fondamentales.
Qui était l'article 3 de la Constitution française, à égalité avec le pouvoir représentatif, la démocratie représentative. C'était par voie des députés et par voie de référendum.
Oui, bien entendu.
L'article 3.
D'ailleurs, cet esprit d'équilibre a été bafoué, puisque je cite souvent cette loi de programmation militaire qui est passée le 14 juillet de l'année dernière pendant que tout le monde était parti en week-end, et qui stipule très clairement si les réalités essentielles de la nation sont menacées, qui est une définition extrêmement vague, on peut saisir toute personne ou ses propriétés. Donc sans contrôle ex post ni a priori ni a posteriori, sans consultation des assemblées selon le principe que vous venez d'évoquer dans l'article 3, et sans contrôle aucun. Tout ça vise à réduire la liberté des Français, est un frein à nos souverainetés, à notre libre expression. Et c'est quelque chose qu'il faut dire aux Français.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono, à retrouver sur l'application de Sud Radio et sur sudradio.fr. Et tout de suite, nous retrouvons les clés d'une vie avec Jacques Pessis.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Cyril Roger, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur communication et innovation chez Michelin. L'innovation et Michelin, c'est une histoire d'amour.
Absolument, et ça fait même 130 ans que l'innovation est au cœur de l'histoire de Michelin. D'ailleurs, nous faisons partie des 100 entreprises les plus innovantes au monde.
Et justement, sur quelles innovations travaille Michelin ?
Eh bien, au-delà de notre ambition de créer des pneus tout durables d'ici 2050, nous exploitons aussi notre savoir-faire en matériaux composites pour ouvrir de nouveaux horizons.
Lesquels, par exemple ?
Alors, Michelin travaille notamment sur le projet Wizamo, un système automatisé d'ailes gonflables pour cargo qui vise à réduire les gaz à effet de serre du transport maritime.
Merci Cyril Roger.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner à coups d'épaule motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Qui danse?
scénariste. Ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performer, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Il danse. Elle danse. Il danse. Il danse. Qui danse. Il danse, quelle que soit la tendance. Pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Il danse pour leur indépendance, qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance, la danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.